20h. RTS Info, Julien Traxel.
160 pays ont été invités à la conférence de paix en Ukraine qui se tiendra les 15 et 16 juin au Burgenstock dans le canton de Nidwald. Le Conseil fédéral a officiellement envoyé ses invitations aujourd'hui. Si des membres du G7 ou du G20 ainsi que l'ONU font partie des délégations conviées, ce n'est pour le moment pas le cas de la Russie. Porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov a d'ores et déjà remis en cause le sérieux de cette conférence organisée sans la Russie. La participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas encore assuré non plus. Le chef du Hamas affirme étudier la proposition de trêve dans la bande de Gaza dans un esprit positif. Le responsable du mouvement islamiste palestinien va ainsi dans le sens d'Anthony Blinken. Après avoir effectué en Israël sa 7e mission au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain s'est dit décidé à arracher un cessez-le-feu d'une durée de 40 jours. Un cessez-le-feu associé à une libération des otages retenus dans le territoire palestinien. Dans l'attente d'une réponse, l'armée israélienne a continué aujourd'hui à bombarder la bande de Gaza. Au moins 28 personnes ont été tuées en l'espace de 24 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas. Le nombre de dénonciations pour soupçons de blanchiment d'argent a augmenté de 56% en Suisse en 2023. Dans un rapport publié cette semaine, le bureau de communication en matière de blanchiment d'argent annonce avoir enregistré près de 12 000 cas l'an dernier. Cette hausse s'est expliquée sur la dernière décennie par un renforcement considérable de la surveillance des marchés financiers et de l'application du droit. Le groupe Vail Resorts a finalisé le rachat du domaine skiable de Crans-Montana. La société américaine détient désormais 84% des parts des remontées mécaniques Crans-Montana à Minona, jusqu'ici en main de Radovan Vitek. Annoncé en novembre dernier, la transaction porte aussi sur la reprise de l'entreprise Sportlife, qui exploite l'une des écoles de ski de la station, et sur 11 restaurants. La valorisation de l'ensemble de ces activités s'élève à près de 120 millions de francs. Un père et son fils ont été condamnés aujourd'hui à 7 ans et 3 ans et demi de prison par le tribunal correctionnel de Genève pour traite d'êtres humains aggravée. Les deux prévenus, qui appartiennent à la communauté rome de Bulgarie, faisaient venir des personnes en Suisse pour les faire mendier. Ils récupéraient ensuite tout ou partie de l'argent récolté par leurs victimes. La Chaux-de-Fonds vient de franchir une étape importante pour devenir la première capitale culturelle suisse en 2027. Présidée par Daniel Rossella, syndic de Nyon et fondateur du Paléo Festival, le jury a approuvé le dossier de candidature déposé par la cité chaux-de-fonnière. Une approbation sous réserve d'un financement fiable encore à trouver. Pour les membres du jury, l'architecture et l'approche intégrale et inclusive de la Chaux-de-Fonds ont fait la différence. La Suisse sera l'invité d'honneur du marché du film du 77e Festival de Cannes. Du 14 au 22 mai, une série de conférences sera animée sur la croisette par des représentants de l'industrie cinématographique helvétique. Ces représentants émanent du Festival de Locarno, de la Cinémathèque Suisse ou encore du Festival du film de Zurich. De la pluie localement abondante au menu de l'après-midi, du Jura au bassin lémanique. En plaine, le thermomètre ne dépassera pas les 13 degrés. Demain, de belles éclaircies sont à prévoir malgré quelques précipitations éparses en matinée.
Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.
Les deux tiers de ces neurones se trouvent dans ces tentacules qui sont donc capables de toucher, goûter et se mouvoir sans solliciter le cerveau. Le poulpe est une des créatures les plus imprévisibles qui soient. Couleur 3.
Le poulpe, Yannick Neveu.
C'est le poulpe du jeudi, un poulpe somme toute assez normal avec ses 8 tentacules, ses 9 cerveaux et ses 3 cœurs. Oui, c'est un peu la surenchère, mais il faut bien ça. Beaucoup de bras, pas mal de cœurs et de matière grise. C'est aussi pour cette raison qu'on a appelé cette émission Le Poulpe. C'est parce que c'est un vrai travail d'équipe. Et dans l'équipe du jour, en régie, c'est Philippe Vaudan.
Bonjour.
La programmation musicale, c'est Gabriel Kschwend. La voix qui dit des trucs, aujourd'hui c'est moi. Et le poulpe, c'est parti.
I like the way you I can tell you miss.
The Way You Kiss Me, c'était Artemas et pourtant j'ai pas souvenir d'avoir embrassé cette personne et croyez-moi que je me souviens de chaque personne que j'ai embrassée parce qu'il y en a pas eu beaucoup dans ma vie, voilà c'est comme ça. Enfin on y est, je vous en parle depuis le début de la semaine, le grand débat du poulpe consacré à la question que tout le monde se pose, thé froid pêche ou thé froid citron? Voilà, on va en débattre à 16h30 aujourd'hui. Mais exceptionnellement, vous pouvez déjà aller voter sur couleur3.ch. Le sondage va être en ligne d'ici quelques secondes. Je suis en train de lancer le petit système. Mais vous allez déjà pouvoir voter. Comme ça, on aura déjà des petits votes pour 16h30 à l'heure du débat. Et puis, si votre cœur balance encore entre pêche et citron, Hélène Ichters vous propose les deux.
Spectrum. Après l'eau, il paraît que c'est la boisson la plus bue au monde. Le thé affirme être devant le café dans le cœur des habitantes et habitants de la planète. Bourré de caféine et de tanins, il s'est bu majoritairement chaud pendant des millénaires, mais c'est froid qu'il a conquis le rap et la pop culture. On tente de décoder la recette du succès dans ce spectrum infusé par Bastien Testeri. Yeah, moi, c'est Hélène Ichters.
Okay, roll the drums. I don't really know, it's a long involved story.
Spectrum, la pop culture en vectoriel. Spectrum. Pour obtenir du thé froid, c'est pas très compliqué. On peut laisser refroidir un thé qu'on a fait infuser à chaud, mais c'est plutôt du thé à température ambiante et pas du thé froid et encore moins glacé. Pour avoir l'effet rafraîchissant, il faut un frigo ou des glaçons. Et ça, c'était pas possible avant la fin du 19e siècle, c'est-à-dire avant l'ère industrielle, celle des bateaux à vapeur et des trains.
Ouch ! Ça va être vraiment mission impossible.
Clairement, pour obtenir un glaçon à cette époque, il faut aller choper de la glace directement dans des lacs gelés. Et pour ça, les lacs du Doubs, de l'Ain et du Jura franco-suisse sont parfaits.
Parfait !
Aux États-Unis, ce sont les grands lacs qui fournissent la glace nécessaire pour toute une population qui n'a qu'une seule envie, seule à couler douce avec une boisson fraîche.
Anton, fa caldo. Antonio, fa freddo.
En 1904, aux États-Unis, a lieu l'exposition universelle qui célèbre les 100 ans du rachat de la Louisiane à Napoléon. On y voit Geronimo, le chef Apache, et on y goûte pour la première fois la barbe à papa, le hot dog, le beurre de cacahuète et le Dr Pepper.
Y a rien de tel pour se faire une bonne santé.
En plus, on découvre le thé glacé. Un pur hasard météorologique, puisque cette année-là, une canicule exceptionnelle oblige à mettre des glaçons dans le thé pour rafraîchir tous les visiteurs.
Chers auditeurs, il fait 30 degrés à l'ombre et vous, nous sommes en pleine canicule.
La chaleur est accablante.
Nesté, un vrai rafraîchissement glacé.
Yeah! Le concept existe déjà, avec des recettes, mais faites un carton à partir de ce moment. Encore aujourd'hui aux États-Unis, quand vous commandez un iced tea dans un diner, on vous sert du vrai thé, infusé, puis refroidi et sans sucre. Un comble au pays de la junk food. Et la Suisse alors ? Eh bien, la Suisse a son rôle à jouer dans le thé froid, curieusement, parce que la Suisse est le siège de Nestlé, qui pendant longtemps s'est spécialisé dans les produits en poudre, chocolat, lait et thé.
Thé, thé.
comme Toc, t'es comme tricycle, t'es comme tasse.
En 1945, l'entreprise développe dans ses usines d'Orbe une poudre destinée à la préparation de thé chaud non sucré. En 1948, donc 3 ans plus tard, l'invention est nommée Nesty. Afin de pouvoir être exportée, elle traverse l'Atlantique pour s'imposer sur le marché américain. Dès 1956, c'est une avancée majeure dans l'histoire du thé. La poudre, qui contient désormais du sucre et du citron, peut être diluée dans de l'eau froide. Si le modèle s'impose aux États-Unis, il faudra attendre le milieu des années 80 et l'arrivée d'un nouveau produit sur le marché pour que la Suisse s'emballe. Ce produit, c'est le fameux Ice Tea de la Migros. Oui, je sais, je dois pas dire de marque sur le service public, mais là, je le dis quand même.
Mais qu'est-ce qui vous prend, ça va pas bien ?
En 1984, Rudi Barlerer et Max Spenger sont deux employés de l'entreprise Bischofszell Nahrungsmittel que Migros a racheté.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Contrairement à Nestlé, ils proposent non pas une poudre, mais une eau infusée aux feuilles de thé à laquelle on a ajouté sucre et citron. C'est un carton qui va obliger Nesty à revoir sa stratégie et proposer elle aussi son mélange désormais en liquide plutôt qu'en poudre.
Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui.
En 1988, le géant Orange introduit le célèbre design à rayures. À part l'introduction du très controversé goût pêche en 1992 et l'arrivée des bouteilles en pète dans les années 2010, le cultissime Ice Tea a très peu bougé.
Nesty,
Je préfère celui au citron.
J'adore sa recette. Mais c'est à moi qu'on a demandé.
Toujours la même recette d'infusion, sans adjonction d'arôme artificiel ou de concentré. C'est en tout cas la version officielle.
Mon cul, oui.
Visiblement en Suisse, on est fan de thé froid. En 2016, nous possédions la plus haute consommation d'Europe avec 55% de la population qui s'adonne, paraît-il, à ce plaisir au moins une fois par mois. À ce qu'il paraît, on serait même les deuxièmes consommateurs au monde après le Japon. Oh, incroyable ! Le thé froid, une boisson donc hautement addictive, peut-être même plus que l'opium.
Pétrole, la pop culture en vectoriel.
It's time to set your clock back about as long as you can. I stop daylight, it's ludicrous, the maintenance man. Get your oil changed, I check fluids and transmission. You 1 minute fools, you wonder why y'all missing. On the back of milk cartons and it's no rewards, no regards. Close, but it's no cigar. A hard head make a soft, but a hard make the sex last. I jump in pools and make a big splash. Water overflowing, so get your head right. It's all in your mind, punk, so keep your head tight. Enough with tips and advice and things. I'm big dog, having women seeing stripes and things. They go to sleep, start snoring, counting sheep and they so wet that their body started leaking just cause I'm an all-nighter. Shoot all fire. Ludicrous balance and rotate all tires. All tires.
I don't want, I don't need, I can't stand no man. I don't want.
Ludacris et Missy Elliott ensemble sur ce morceau qui s'appelait One Minute Man, pauvre personne qui donc a tenu une minute et qui est l'objet d'une chanson. Mais c'était pas moi, je vous le jure.
Cadeau !
Oui, j'ai des cadeaux à vous offrir, j'ai un cadeau à vous offrir. D'habitude, je vous offre des places pour aller voir des concerts ou des expositions. Et aujourd'hui pas, on a tout donné en début de semaine. Donc ce que j'ai aujourd'hui, eh bien, c'est un vinyle qu'on m'a donné. En fait, Joe Herba, le grand DJ des métissages, une fois il m'a dit « Vas-y Titi, je te fais un grand cadeau ». En fait, il voulait se débarrasser de plein de vieux vinyles dont il n'avait plus besoin et il pensait me faire plaisir. Alors ça m'a fait un peu plaisir. Mais voilà, ça remplit mon casier, donc j'essaye de vider. Et je vous offre... Après, c'est des bons vinyles quand même. Hein. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un vinyle de C. Jérôme, sorti en 1972. Et c'est le premier grand succès de C. Jérôme, un morceau qui s'appelle Kiss Me, que je ne connaissais pas, parce que moi, je n'étais pas né en 1972. Mais j'ai croisé Yann Zitouni, qui a pris la pochette tout à l'heure et qui me l'a chanté vraiment du début jusqu'à la fin et qui était vraiment très, très ému. Il avait des petites larmes dans les yeux. Voilà, chanson adorée de Yann Zitouni, Kiss Me de C. Jérôme. Voilà, numéro 1 en France, 1972. Et puis numéro 5 au Schweiz, Hit Parade en Suisse. Donc, quelques petits fun facts sur ce morceau. C. Jérôme l'a enregistré en 22 langues, 22 versions différentes. C'est un truc qui se faisait à l'époque. Et puis, autre fun fact, il y a de l'harmonica sur ce morceau. Et en fait, c'est le chanteur Christophe qui passait dans les studios quand C. Jérôme enregistrait ce morceau-là. Puis il a dit, tu sais quoi, je fais l'harmonica. Et c'est vrai, c'est crédité derrière. C'est écrit à l'harmonica, deux points, Christophe. Voilà. Et ben, paix à son âme. Et paix à l'âme de C. Jérôme aussi. Je crois qu'il est mort. Christophe, je me souviens qu'il est mort et j'étais triste quand c'est arrivé. C. Jérôme, je m'en souviens moins, c'est marrant. Ce qu'on va vous passer là, c'est pas la version du vinyle, mais une version live que C. Jérôme était venu chanter sur le plateau d'une émission de la TSR en 1973, une émission qui s'appelle Samedi Variété. Alors, je m'en souviens pas non plus parce que j'étais pas né, mais je me tourne vers Yann Zitouni. Ah, il adorait cette émission. Yann Zitouni adorait Samedi Variété sur la TSR, cette glorieuse époque où notre chaîne public s'appelait donc encore la TSR. Très bien, 0840 003 003 pour gagner le vinyle de C. Jérôme et ce morceau Kiss Me. Et puis bah, on écoute Kiss Me en direct. Non, c'était pas en direct, mais il l'avait, je pense que c'était quand même du playback. Mais enfin, écoutez, on va pouvoir passer cette chanson qu'il avait chantée sur le plateau de Samedi Variété sur la TSR en 1973. correspond effectivement à ce que Yann Zitouli m'avait chanté. Kiss Me de C'est Jérôme, mais c'est Dalida qui a remporté le vinyle. N'appelez plus, parce que là ça sonne non-stop pour qu'on vous envoie ce vinyle. C'est Dalida de Bro qui a gagné le vinyle de C'est Jérôme. La suite, c'est un morceau de Noah Ferrari, jeune artiste suisse qu'on a reçu ici à Couleur 3 hier pour enregistrer une super interview. Ça va se passer dans The Jam, émission à découvrir ce samedi à 17h. Très très sympa, Noah Ferrari hein, d'ailleurs. Bon, on vous le passe beaucoup en ce moment et ça fait encore plus plaisir de passer la musique des gens qui sont bonnards. Voilà. Un jeune homme plein de talent et en plus sympa, ça ne gâche rien. Noah Ferrari sur Couleur 3. Hoping to make it. I just need something. The pain that I'm taking is just a sign. And you can be doubtful. I don't mind. And I take a mouthful to feel alive, yeah. Ferrari a retrouvé dans The Jam, je le rappelle, ce samedi à 17h avec Franck Mater. Pour l'heure du sport, en veux-tu, en voilà. Et même si t'en veux-tu ou pas, en voilà quand même.
La causerie.
Caméra embarquée dans la Benetton de Michael Schumacher. Juste devant lui, Ayrton Senna.
Les grands drames du sport.
Le choc frontal ne lui laisse aucune chance. La voiture est pulvérisée.
Sarah Rempe.
Notre protagoniste du jour s'appelle Michael Watson. On dirait un pseudo, mais c'est son vrai nom, premier juré. Et c'est pas le Michael Watson qui jouait dans Amour, Gloire et Beauté. Ma foi, on choisit pas ses homonymes. Donc, Michael Watson, le nôtre, naît en Angleterre le 15 mars 1965. Et comme vous le savez tous, notre vie est écrite en fonction de la chanson qui était numéro 1 en hit parade le jour de notre naissance. Et pour Mike, c'était ça. Tom Jones, c'est sa chanson qui signifie « Ce n'est pas inhabituel ». Gardez ça en tête, vous allez comprendre pourquoi ça conviendra parfaitement à notre Michael. On a malheureusement assez peu de détails sur son enfance, ce qui n'est pas très grave, hein, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est sa carrière de boxeur. Il commence à 14 ans et il se trouve qu'il est assez doué et qu'il apprend vite. Il devient champion d'Angleterre des moins de 75 kilos à 19 ans et dans la foulée, il commence logiquement une carrière professionnelle. On le voit déjà comme un favori au JO de 84, sauf qu'il se fait passer devant par Brian Schumacher, le comble. En 1989, après avoir remporté le titre des poids moyens du Commonwealth britannique, Michael Watson défie Mike McCallum pour le titre mondial, où il se prend un KO au 11e tour. Mais c'est que partie remise. 2 ans plus tard, Watson a une nouvelle chance contre Chris Eubank. Un combat hyper serré qui se joue sur une décision majoritaire. Ce qui veut dire que ce jour-là, 2 des 3 juges donnent la victoire au même type et que le 3e donne un match nul. Et comme par hasard, c'est Eubank qui est déclaré vainqueur. On est donc à 2 finales mondiales de boxe et 2 défaites pour notre Watson. Qui compte pas pour autant baisser les bras. En septembre 1991, donc 3 mois après leur premier combat, Eubank et Watson s'affrontent de nouveau, cette fois pour le titre WBO des super moyens. Moi non plus, j'ai pas tout capté aux différentes catégories, mais peu importe dans notre récit. Le combat est féroce et on sent que Watson veut sa revanche. Il est d'ailleurs en avance et on l'imagine déjà gagné quand il envoie Eubank au tapis au 11e round. On se dit que ça y est, Watson va enfin devenir champion du monde. Sauf que... Eubank se relève juste à temps et balance un uppercut qui envoie Watson en arrière. Il tombe dans les cordes et se fait un coup du lapin. Il se remet debout, va dans son coin, puis repart pour un ultime round qui durera que quelques secondes. L'arbitre stoppe le combat et Eubank célèbre sa victoire en ignorant ce qui se passe à côté de lui. Watson s'est effondré. À ce moment-là, il n'y a ni ambulance, ni ambulancier sur place. C'est des médecins présents dans la salle qui se déplacent. Mais ça fait déjà 8 minutes que Watson ne respire plus. Il recevra des soins seulement 28 minutes après à l'hôpital. La suite, c'est 40 jours dans le coma et 6 opérations pour enlever un caillot de sang dans son cerveau. Mais Watson n'est pas un simple boxeur, c'est un vrai battant. À son réveil, il est sourd, muet, il peut pas marcher et va passer 1 année aux soins intensifs. À ce moment-là, les médecins sont pas franchement optimistes. Et entre nous, je sais même pas comment lui a pu le rester. Il passe encore 6 ans dans un fauteuil roulant et puis le miracle. Petit à petit, il retrouve du mouvement, il recommence à parler, à lire et à écrire. Si vous croyez pas en Dieu, croyez en Michael Watson. Alors forcément, ce genre d'événement très très dur, ça a au moins l'avantage de faire évoluer les choses. Et autant vous dire que ça n'a pas traîné dans la boxe. D'autant plus que Watson a attaqué en justice le conseil de contrôle de la boxe britannique pour négligence. Je rappelle qu'il est resté 8 minutes sans oxygène. Donc je vous laisse imaginer les dégâts irréversibles que ça fait. Il est d'ailleurs toujours hémiplégique. Michael gagne son procès et dans le jugement, la cour rappelle au conseil de contrôle le devoir de diligence qui n'est pas seulement d'éviter les blessures, mais aussi de s'assurer que les blessures déjà subies soient correctement traitées. À partir de là, la boxe va prendre plein de nouvelles dispositions, notamment au niveau médical, pour éviter de revivre le drame Watson. Que ce soit la présence médicale, la formation des arbitres, la limitation de la durée des rounds, il y a eu une prise de conscience. Quant à Watson, il n'est pas resté sagement dans sa chaise roulante. En 2003, il a fait le marathon de Londres, en marchant 2 heures chaque matin et chaque après-midi pendant 6 jours, le tout en récoltant des fonds pour l'aide au handicap. Balèze pour un mec qui devait plus remarcher, hein. Je vous dis, je vais imprimer une photo de lui et la mettre au-dessus de mon lit. Et détail marquant, lors de ce marathon, Watson a franchi la ligne avec son neurochirurgien, Peter Hamlin, et avec Chris Eubank, son adversaire lors du combat fatidique, qui a forcément galéré psychologiquement à se remettre de ce qu'il avait fait malencontreusement. Mais Michael lui a pardonné en lui disant, entre autres, « Passons à autre chose, ça aurait pu arriver à n'importe qui, c'était un accident, que Dieu te bénisse. » Je me répète, mais Michael Watson est un saint. Il a d'ailleurs reçu l'ordre de l'Empire britannique des mains de la reine d'Angleterre en 2004. Et comme un symbole, il a porté la flamme du relais paralympique en 2012. Une sacrée leçon de courage et une énième démonstration de la force de persévérance qu'on peut trouver à travers le sport. Et puis une piqûre de rappel, quels que soient les drames, c'est l'espoir qui meurt en dernier.
La causerie sur Couleur 3. Okay.
Foster the People chantait Pumped Up Kicks, une chanson qui a l'air comme ça tout à fait joyeuse, mais qui raconte une tuerie de masse dans une école aux États-Unis. La chanson parle de ça. Écoutez, les histoires derrière les chansons, ça tombe bien. Notre invité du jour en a plein à raconter lui aussi.
Le poulpe,
un peu de café,
l'invité.
L'autre jour, j'ai reçu un email de la part de Yann Zitouni, mail que je vais vous lire dans son intégralité. Joseph Carlucci, 45 ans de photos de rock, des tas d'histoires à raconter avec Bowie, Metallica et quelques autres. Le gars est cool et j'ai son contact si vous voulez. Eh ben oui, on veut. Merci Yann. Et merci Joseph Carlucci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue.
Merci à vous.
Alors pour planter le décor, toi tu es photographe et il y a quelques jolis noms qui ont croisé ton appareil. Pêle-mêle, AC/DC, ZZ Top, Metallica, BB King, David Bowie, Michael Jackson, Tina Turner, Lady Gaga. Bon, on va commencer par le commencement. Comment tu as découvert la photographie ?
Alors ça remonte déjà dans le siècle passé, à savoir en 1974 pour être précis.
Oui.
Mon tout premier concert, c'était au Riaip à Berne.
Ok. Et là, tu t'es pointé avec un appareil photo ?
Non, malheureusement pas, et je le regrette encore aujourd'hui. En fait, j'y étais parce que j'écoutais déjà du rock à l'époque, et j'ai vu les affiches en ville pour le concert de Uriah à Berne. J'ai croché, je crois, la première fois, le premier concert, et à Berne, j'ai vu des affiches pour les concerts suivants.
Ok, ok.
Et le concert suivant, c'était Deep Purple, toujours à Berne.
Toujours à Berne. Et là, tu t'es pointé avec un appareil photo.
Eh ben toujours pas.
Toujours pas.
Toujours pas. Non, c'est toujours pas.
C'est une série par épisode comme ça.
Voilà. Il a fallu que j'attende quelque chose de plus doux, comme le Procolarum, par exemple.
Ok, Procolarum, ouais.
Et là, j'avais dit à un ami qui aimait aussi la musique, mais qui me posait des faux rendez-vous chaque fois. Uriah Heep n'était pas venu, Deep Purple n'était pas venu.
Bon, ben, c'est tant pis pour lui.
Tant pis pour lui. Et justement, pour lui montrer ce qui manquait visuellement, j'ai acheté un petit pocket Kodak.
Ah, en fait, c'est un peu un hasard que tu es devenu photographe.
Exactement. Et je suis toujours par hasard.
C'est cool. Tu te souviens de ton tout premier cliché ? Ou en tout cas, le premier où tu t'es dit « Ah, c'est pas mal ça ».
Oui, je me souviens, c'était à Zurich en 81. Je suis monté voir un groupe que j'adore depuis le début, c'était ZZ Top.
Ok.
Et en première partie, il y avait Rose Tattoo.
Ok.
Donc là, j'avais un pocket, mais toujours donc négatif, machin.
Mais toujours un peu en amateur.
Toujours en amateur.
Ok.
Et j'ai fait des photos à Rose Tattoo et ZZ Top, et j'étais assez fier des photos de ZZ Top. Donc, ma première réaction, j'ai envoyé quelques clichés à Paris.
Ouais.
Parce qu'en France, il y avait des journaux musicaux, enfin, il y avait de la presse musicale qui s'intéressait. Et à ma plus grande surprise, en allant à Annecy quelques mois après pour voir un groupe mythique déjà à l'époque, mais voilà, c'était Motörhead.
Ok, ouais.
Je me suis arrêté dans un kiosque et j'ai acheté le deuxième numéro d'Enfer Magazine. Et à ma plus grande surprise...
Il y avait tes photos.
Il y avait les photos de ZZ Top.
Et ils ne t'avaient pas payé.
Et, au début, pas, mais ils ont payé plus tard.
Ouais, quand même.
Par contre, ça m'a permis de rentrer en contact avec Enfer Magazine et d'être un envoyé spécial pour la Suisse. Enfin, envoyé spécial, non. Je couvrais les concerts métal en Suisse pour Enfer Magazine.
Ok.
Ça a commencé tout bêtement comme ça.
Bah, ça commence souvent bêtement et puis voilà. Tu exposes en ce moment à la Vie d'Ondée à Ried en Valais. Ça s'appelle Legends et c'est visible du 4 au 25 mai. C'est un lieu que tu connaissais déjà ?
Non, c'est un lieu que j'ai découvert il y a très peu de temps. On m'a proposé de faire, mais merci déjà à la Vie d'Ondée. Merci aussi à Arnaud qui nous écoute sûrement en ce moment.
Probablement.
Voilà. Et j'ai été invité et ils m'ont demandé si j'étais intéressé d'exposer à la Vie d'Ondée. J'ai dit oui.
Bah oui.
Bah voilà. Bah, ça a commencé comme ça.
Comment t'as choisi les clichés qui sont présentés dans l'exposition ?
Oh là là. Alors là, on n'a pas le temps de discuter de ça.
Bah oui, non, mais parce que ça doit être ça horrible de choisir.
C'était une torture.
Ah oui.
À savoir, ça fait bientôt 9 mois que j'ai été contacté, on m'a proposé, et j'arrive toujours pas à me décider.
Malgré l'expo, c'est samedi.
Oui, c'est samedi, mais je dois changer encore une photo cet après-midi. Ouais. J'arrive pas, c'est très difficile. J'ai pensé, ça a été plus facile de choisir les photos pour le livre que pour l'exposition à Rivendell.
Parce que tu as sorti un livre en 2021.
Oui.
Ça s'appelle 45 Years of Rock Photography, 45 ans de photographie de rock. Trois ans plus tard, tu aurais des clichés à rajouter ?
Oui, oui, j'en ai beaucoup plus que toi. J'en ai assez.
48 ans de photographie rock.
Oui, j'ai le choix. Et ce qui manque, c'est difficile de choisir, en fait.
Oui.
Soit une photo.
Moi, quand c'est comme ça que j'ai du mal à choisir, je me mets dans la peau de David Bowie et je me dis, avant les concerts, il devait faire une setlist et choisir des chansons qu'il devait jouer.
Oui.
Je me dis, ça devait être impossible d'être David Bowie et de choisir les chansons qu'on va jouer ce soir, tellement tout est bien. Et ça me permet de relativiser tous les choix de la vie, en fait.
Je me retrouve dans la même situation, malheureusement, parce que. Et là, j'avais pensé, effectivement, clore le choix. Les impressions sont faites. L'accrochage est en train d'être fait.
Bah, maintenant.
Même en ce moment même, je crois qu'il bosse dessus. Et cette nuit, j'ai de nouveau pas fermé l'œil. J'ai oublié telle photo. Et puis, donc, est-ce que j'enlève une ou je rajoute apparemment, il n'y a plus de place.
Bon, bah voilà. Bon,
désolé, Arnaud.
Il reste le plafond, Arnaud. Enfin.
Il est bouché aussi.
Bon, bah voilà, c'est fait. C'est fait, le plafond, c'est fait. Bon, je te propose. Je t'ai écrit, en fait, hier pour te proposer de choisir un morceau qu'on écouterait au milieu de ton interview. Et puis, tu m'en as pas donné un, tu m'en as donné cinq.
Oui.
Et puis, tu m'as dit, vas-y, choisis-toi. Donc, dans les cinq, il n'y avait que du hard rock. Donc, déjà, merci pour ça. Ça fait plaisir. J'ai pris la liberté de choisir Paranoid de Black Sabbath. Black Sabbath que tu as rencontré et photographié aussi.
Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Black Sabbath. Malheureusement, pas avec Ozzy Osbourne, mais avec.
Avec
Ian Gillan.
Ah, oui, d'accord.
Ian Gillan. Quelque part aux alentours de Lucerne, je ne me rappelle plus le bled, mais c'est très vieux.
Oui, ça remonte. Ouais.
Il y avait Tony Iommi, je me souviens, et Ian Gillan.
Ok, ok. Et Ozzy, tu l'as rencontré une fois ?
Non, Ozzy, je l'ai vu de loin. Et je l'ai vu de loin et j'ai des souvenirs très marquants comme ça. J'étais au Breaking Sound Festival à Paris et je faisais le chauffeur entre les groupes, l'hôtel et la scène, donc le site. Et en allant chercher Venom à l'hôtel, j'ai vu Ozzy sorti en plein mois de juillet. J'ai toujours cette image devant les yeux avec un long manteau en fourrure.
Au mois de juillet.
Au mois de juillet, exactement. Ouais. Et puis les deux gamins, main dans la main comme ça. Et cette image m'est restée aggravée. Quoi.
Et tu n'avais pas d'appareil sur
toi. Et j'avais pas d'appareil. Non, parce que j'étais chauffeur. Là.
Ben voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. On va écouter donc ce morceau de Black Sabbath. Ça s'appelle Paranoid. C'est un groupe que t'écoutes toujours, Black Sabbath ? Bah oui, évidemment. On est d'accord.
Ça, je suis obligé de mettre le casque.
Oh, tu me... Ouais, vas-y, mets le casque. Black Sabbath sur Couleur 3.
Lose my
Paranoïde, c'était Black Sabbath sur Couleur 3, un morceau que Joseph Carlucci a beaucoup écouté dans sa vie.
C'est vrai.
Et déjà assez tôt même dans ta vie.
Oui, je ne dirais pas l'année que j'écoutais, mais je peux te confirmer une chose, c'est qu'à l'époque j'habitais à l'Avenue Chalon, à Lausanne, et l'école était à peu près vers Chaudron.
D'accord.
Donc tous les matins et pendant des mois, j'allais à l'école depuis la Mine des Chalons jusqu'à mon école avec le 45 tours et le manche-disque.
T'avais un lecteur de vinyle portable.
À l'époque, c'était ça, oui. Ouais. Voilà.
Et puis tu te baladais, t'allais à l'école en écoutant Paranoïde des Black Sabbath.
Exactement. Et j'arrêtais le disque en rentrant en classe.
Ouais.
D'où d'ailleurs, si quelqu'un écoute des copains d'école, se rappelle de cette anecdote.
Oh bah sûrement, oui.
Il y avait des fans de Led Zepp à l'époque et puis de Black Sabbath.
Ah, toi, t'étais team Black Sabbath.
Moi, j'étais team Black Sabbath.
Ah, je pense que j'aurais été team Led Zepp. Ouais, je sais pas.
Ah, c'est difficile.
C'est dur de choisir.
Avec le recul, je sais pas.
Ouais,
mais en ce moment, je penche plus.
Ah ouais. Ouais, peut-être, peut-être. C'est qui que tu as photographié le plus souvent?
Alors, en regardant et en choisissant des photos pour l'exposition, je me suis rendu compte au fait que Motorhead était un des premiers.
Ok.
Maiden, évidemment. ACDC.
Ok.
Plusieurs fois. Mais celui qui arrive en tout premier, je crois que c'est Maiden.
Maiden. Ok, ok. Ils sont sympas, Maiden?
Alors, j'ai eu le plaisir de faire une connaissance plus rapprochée avec Nico, qui est le batteur.
Ouais.
Qui était, avec moi en tout cas, super sympa. J'ai eu la chance, puisqu'on parle d'anecdotes et de souvenirs, j'ai été chez lui pendant une semaine à Londres.
Ah, cool.
Il m'a accueilli, au fait, il est venu me chercher, il est venu nous chercher à l'aéroport.
Ça va.
C'est sympa.
Oh, ouais, c'est cool.
Hein. C'est sympa. J'ai été aussi surpris, parce que c'était aussi une surprise. On m'avait pas dit que Nico McGrain venait nous chercher à l'aéroport. Et il nous a amené chez lui, puis après on est parti sur Donington. C'était en 87.
En 87, bon, bah déjà Iron Maiden, c'était déjà immense à l'époque.
C'était déjà cool.
Sympa de sa part. Au bout d'un moment, est-ce que tu deviens pote avec les musiciens que tu photographies ou bien tu essaies de garder une distance pour conserver un regard de photographe ou est-ce que ça change le rapport si on devient trop copain?
J'ai toujours mis une limite avec tout le monde. Que ça soit Nico, que ça soit Tom Araya de
Slayer,
que ça soit le contact que j'ai eu avec d'autres musiciens, j'en ai connu pas mal. Mais je sais pas pourquoi, mais je mets toujours une barrière, je respecte sa vie. Et voilà. Je cherche pas à en savoir plus de ce qu'il m'offre, au fait.
Mais on t'a déjà. Tu parles de Tom Araya, on t'a déjà dit que t'as un petit air de Tom Araya un petit peu?
Oui, monsieur.
Non, mais tu lui ressembles!
Oui, je peux te montrer à la radio.
Ça se verra pas à la radio, mais c'est vrai. Mais non, mais vous êtes cousins. Qu'est-ce qui se passe?
On me l'a déjà dit, mais malheureusement pas. Lui, en Chili, et moi, non. On me l'a déjà dit.
Oui. Bah, écoute, je te le dis aussi. Est-ce que ça a changé entre avant et maintenant? Est-ce qu'il est devenu plus facile, plus compliqué de faire de la photographie? Parce que maintenant, j'ai l'impression que le matériel, tout est devenu plus simple pour faire des photos, mais que l'accès aux artistes est peut-être devenu plus compliqué.
Bah, disons qu'entre le moment où j'ai commencé en 74 et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ça soit déjà musicalement déjà.
Ben oui.
Dans le monde de la musique, les appareils de photos ont changé et c'est clair que c'est plus facile de faire 500 photos maintenant que 36 à l'époque avec un film. Hein, j'ai déjà.
Oui.
Maintenant, on arrive à un concert à faire, je sais pas moi, sur un concert, 200, 300 photos. En 84 jusqu'à 90, j'en faisais 2x36, quoi, deux films. Hein.
Ah oui, c'est un autre budget aussi, j'imagine.
D'ailleurs, l'anecdote où j'aimerais juste.
Je t'écoute.
Tu m'écoutes?
Ah oui, bien sûr.
À l'époque, donc, on travaillait en argentique et j'ai un souvenir incroyable sur un concert de AC/DC, Motley Crue, Van Halen en 84 à Winterthur. Où le film pour AC/DC a mal croché.
Oh,
et ça, je me suis pas rendu compte. Ouais, mais j'en pleure encore.
Bah oui, bah tu peux bien, oui.
Donc voilà. Chose que ça n'arriverait plus maintenant.
Alors non.
Hein, sur les appareils, si tu mets pas la carte, il te dit pas de carte.
Pas de carte, ouais, effectivement.
Donc cette série de photos à Winterthur avec AC/DC, je me suis rendu compte à la fin des trois chansons que j'étais toujours en train de faire des photos avec le même film et j'ai dit, il y a un problème.
Et t'as surimprimé.
Toutes les photos, sauf la première que j'ai sauvée.
Ouais.
Et la première, j'ai eu l'immense plaisir et l'honneur de la développer,
ouais.
De rencontrer le groupe à Montreux.
Et c'est d'ici donc.
Et c'est d'ici.
Ouais.
Ils ont signé la photo. Et 15 jours après, ils m'ont rappelé et ils ont pris cette photo pour la pochette du 45 tours.
Bon.
C'était la seule photo que j'avais.
C'était la seule que tu devais faire ce soir-là et tu l'as faite.
Exact.
Eh ben, bien joué, franchement. Bah, bonne histoire.
Coup de bol,
ouais, ouais. Bon, bah, tu vernis ton exposition qui s'appelle Legend à la Vidondée. C'est à Ride, en Valais. C'est un très joli lieu. Le vernissage, c'est ce samedi 4 mai à 18h pour le vernissage. Puis à 20h, il y a un concert de Félix Rabin en mode trio rock blues. Voilà.
Exact.
Ça joue très, très bien. Félix Rabin, c'est vraiment super. Merci beaucoup, Joseph Carlucci, d'être passé nous voir.
Merci à vous.
On rappelle que ton expo est à voir jusqu'au 25 mai à la Vidondée à Ride en Valais. Et bah écoute, bonne suite à toi.
Merci beaucoup et bienvenue à Ride.
Ah bah oui, venez à Ride.
Et merci à Couleur 3.
Merci à toi. Ciao.
Merci.
Bueno pues, la cosa sería un poquito así, ¿no? Entre lo caótico y el genio.
International.
Mesdames, messieurs, et tout ce qu'il y a entre les deux, chers camarades, nous fêtons aujourd'hui la journée internationale des bébés. Et je ne suis pas bien certain que ces petits merdeux méritent vraiment une journée à eux. C'est vrai, merde à la fin. Ils sont déjà le centre d'attention 24 heures sur 24, on les dorlote, on les chouchoute, on leur fait des petits plats maison, on les lave, on les brosse et on torche leur cul quand ils ont fini. C'est bon, jusqu'à quand ça va durer ce bordel? Vous croyez qu'on a que ça à foutre, nous? On peut pas toujours rester à la maison pour s'occuper d'eux. Il y en a qui travaillent, merde! Eh oui, boire l'apéro de temps en temps, ça fait partie du travail. C'est là où je rencontre mes clients, ok? Alors oui, ces petits phagocyteurs d'énergie m'insupportent au plus haut point. Et je dis pas ça parce que ça fait 2 ans que j'ai plus couché avec ma femme. Enfin, je crois.
Bye.
Fate, c'était Chaka Khan à l'instant sur Couleur 3. Chaka Khan et non pas Gengis Khan, au sujet duquel Cristal Di Marzo a déjà consacré une de ses séries de flèches, même si aujourd'hui, bien, c'est ni Chaka Khan ni Gengis Khan, mais bien Louis XIV, dis donc.
La flèche, l'histoire de celles et ceux qui ont laissé une trace.
Et on se retrouve dans la chambre à coucher du roi Soleil qui fait transpirer de nombreuses maîtresses durant son règne. Nous n'en citerons que quelques-unes par manque de temps. Il y a Louise de la Vallière, la marquise de Montespan et la gouvernante des 7 enfants que le roi et la marquise susnommés ont eus, une certaine Madame de Maintenon. C'est la favorite des favorites, celle qui épouse le roi après la mort de la reine Marie-Thérèse d'Autriche en 1683. La Maintenon, c'est pas vraiment la meuf que t'appelles quand tu veux t'éclater. Elle est austère et très pieuse. D'ailleurs, elle détourne le roi des plaisirs de la fête et de la chair.
Mauvaise ambiance. Mon ami, c'est mauvaise ambiance.
L'ambiance au château n'est plus ce qu'elle était. Elle se révèle aussi morose que dans le reste du royaume où la famine fait rage.
Mon ami, c'est mauvaise ambiance. Mauvaise ambiance. Tu ramènes la mauvaise ambiance.
Cela dit, le fait rage est encore admis. Et Louis XIV peut monter à cheval quand bon lui semble et quand sa santé le permet. Car le roi souffre de plus en plus vers la fin de sa vie, même s'il n'a jamais été épargné par les maux. Je vous la fais rapide, à 9 ans,
il se chope la petite vérole. À 17 ans, une maladie vénérienne, puis plus tard, le typhus. À partir de la quarantaine, le roi a de sérieux problèmes de dents. Et quand on lui extrait ses chicots pourris, on lui arrache par mégarde un morceau de palais. En découleront des troubles intestinaux, puis, par extension, une fistule anale qui restera dans les annales.
Bon appétit si vous êtes à table. On l'opère de sa fistule sans anesthésie. Le chirurgien, un prénommé Félix, crée pour l'occasion un instrument spécial, le bistouri recourbé à la royale. C'est mignon. L'opération est un succès et le roi Soleil peut à nouveau exposer ses raies de lumière à la cour. Mais quelques années plus tard, alors qu'il était parti chasser sans son chien car c'est un bon chasseur, Louis XIV se blesse à la jambe. La blessure est vilaine, c'est la gangrène. Après une lente et longue agonie, le soleil se couche, pour toujours, le 1er septembre 1715. « Il est mort, le soleil », aurait chanté l'une de ses maîtresses, une dénommée Nicoletta.
« il est mort, le soleil !»
Petites histoires de grands personnages.
Repérage, couleur 3.
What could it be ? Wake up and dream of the fussy. I'm begging you, please, go there with me. Son, please don't go away. Shadow under buildings, shadow under faces. I need my friends now. I wanna party now. I wanna do something now. Why would you bore me out? Wake up and love, wake up Sasha.
repérage signé Uche Yara. Le morceau s'appelait Sacha. Il est 16h, c'est les infos sur la 3.
Couleur 3.
C'est